Et tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Plus ou moins, hein? Là, ça va être mieux? Là, peut-être encore mieux? Là? Okay. L'évangile qu'on vient d'entendre, c'est un évangile qui est important parce que ça nous amène à comprendre qui est Jésus en raison des personnes qu'il choisit. Et Jésus est d'abord monté sur la montagne. Dans les évangiles, surtout saint Marc, quand Jésus donne l'enseignement aux personnes, c'est sur le bord de la mer, sur le bord du lac. Mais quand Jésus a des gestes importants à poser, qu'il veut se retrouver avec son Père, il se rend sur la montagne. Et aujourd'hui, quand Marc commence en disant que Jésus monte dans la montagne, il veut nous faire comprendre que Jésus va poser un geste important. Et c'est vraiment important puisqu'il s'agit du choix de ses apôtres. On va commencer par regarder qui sont les apôtres. Aujourd'hui, quand on parle de Pierre, Jacques, Jean, Paul, c'est Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Paul qui sont sur des autels, dans des niches, et on a juste à penser aussi les statues, les sculptures qui sont au Vatican, où on voit tous les apôtres qui sont juchés là, parce que ce sont des saints importants. Et on est porté, nous autres, à les considérer comme des personnes bien différentes de nous autres, avec un statut qu'on ne peut pas atteindre, nous autres. Mais pourtant, les apôtres, c'est du monde comme nous autres. Des personnes tout à fait semblables à nous autres. Et aujourd'hui, c'est pas parce que je veux les rabaisser, mais précisément, c'est important de comprendre cela, parce que ça fait partie de l'incarnation de Jésus sur la terre. Jésus a voulu être l'un des nôtres, vivre comme nous vivons notre vie humaine, en toute chose, sauf le péché, nous rappelle saint Paul. Et les personnes qu'il a choisies, il ne les a pas choisies parce que c'était des gens parfaits, mais il les a choisis pour d'autres raisons. Et ces personnes qu'il a choisies, durant les 3 années qu'il a été avec eux sur terre, là, il les a éduqués, si on veut, il leur a appris à devenir des apôtres, à devenir des personnes capables de transmettre la bonne nouvelle. Alors, on va commencer par Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est mon préféré. Alors, c'est pour ça que je vais peut-être en parler plus longtemps, mais il y a de la matière pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, il avait une entreprise, c'est un pêcheur, et il avait une entreprise de pêche. Son frère André était avec lui, il y avait d'autres pêcheurs avec lui. Et Saint-Pierre, c'était d'abord au point de vue physique, c'était certainement quelqu'un de bien bâti. Un pêcheur, dans ce temps-là, ça se faisait pas à machine, ça se faisait à bras. Alors, lever les filets, puis s'occuper de nettoyer la barque, puis nettoyer les filets, les réparer. Alors, c'était quelqu'un qui était certainement solide, bien bâti. Et Pierre, c'est un type impétueux. C'est pas le genre de personne qui va avec des gants, mettre des gants pour parler. Mais c'est direct. Quand Jésus, à un moment donné, leur s'est mis à leur annoncer qu'ils seraient maltraités par les prêtres du temps, ils seraient condamnés à mourir, Saint-Pierre dit, wouh, non. Alors, je vais m'en occuper, puis ça se passera pas de même. Mais c'est là que Jésus a dit, arrière, passe derrière moi, Satan. Satan, on va voir tout à l'heure, ça veut pas dire que Pierre était possédé du démon, loin de là. Mais ça voulait dire que Pierre se posait comme celui qui mène, celui, ça se passe pas de même, mais il voulait prendre les devants, finalement. Jésus dit, non, prends ta place, va derrière moi, ça veut dire reste disciple. Ne prends pas la place du maître, reste disciple. Parce que là, tu es en train de mettre des bâtons dans les roues au plan de Dieu, que le plan de Dieu que pour moi. Alors, Saint-Pierre, c'était ça. Puis vous vous souvenez, à la dernière scène aussi, là, quand Jésus se met à leur dire tout ce qui va se passer, Saint-Pierre a dit, on va s'organiser, puis même s'il faut que je meure avec toi, je vais mourir, je suis prêt à aller à la mort. J'ai dit, minute, le coq va chanter 2 fois, tu vas m'avoir renié 3 fois. Saint-Pierre, non, c'est pas de problème. Puis quand le lavement des pieds, vous en souvenez, toi, me laver les pieds, jamais. Il n'est pas question, jamais. Je lui ai dit, comme tu aimeras, t'es libre. Si tu ne te lave pas les pieds, à ce moment-là, tu n'es plus mon chum, tu n'es plus mon ami, tu n'as plus de part avec moi. Là, on voit Pierre, il vire de bord à 180 degrés, pas seulement les pieds, mais la tête, le corps, tout est bien, la douche au complet. C'est ça, Saint-Pierre. C'est tout d'un morceau, et c'est quelqu'un qui est impétueux. Après ça, il est obligé de revenir un peu pour se replacer. Du monde comme nous autres. Il y en a du monde qui sont comme ça, on en connaît, puis il y en a qui sont différents, mais lui, Saint-Pierre, c'est le même. Le deuxième que Jésus appelle, c'est Jacques. Jacques, lui aussi, c'est un pêcheur. Mais c'est l'entrepreneur pour qui il travaillait, c'était son père Zébédée. Alors Zébédée avait une barque et puis il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Alors Jacques, puis son frère Jean, travaillaient un jour pour Zébédée, c'était des pêcheurs. Alors, de Jacques, on n'a pas grand chose qui sont dites dans l'Évangile. Une chose importante quand même, c'est qu'il a été témoin de la transfiguration de Jésus. Ça veut dire que Jésus, quand il l'a appelé, il avait déjà des vues sur Pierre et Jacques. Parce que Jésus, quand même, il savait qui appelait. Il n'a pas appelé ça au hasard, toi, non. Il savait qui appelait et il avait déjà une bonne idée du tempérament de ces personnes-là et jusqu'où il pouvait les conduire pour les développer dans leur foi, dans leur confiance en Dieu. Alors Jacques, c'est ce que nous en savons. Jean, on le connaît peut-être davantage, le frère de Jacques, le fils de Zébédée, même chose, c'était lui aussi un pêcheur. Je précise une parenthèse. C'est quand on regarde les peintures de Michel-Ange, entre autres, et d'autres sculptures, on nous présente toujours Jean un peu comme, j'ai pas le mot efféminé, là, mais c'est pas péjoratif, c'est un peu comme un jeune homme bien correct, là, mais c'est pas tout à fait, c'est pas ça la réalité. Jean, c'est un pêcheur. Comme les autres, là, c'est quelqu'un qui était bien bâti, qui n'était pas bâti sur un frame de chaise. Et c'était pas quelqu'un qui avait des petites mains, comme on le voit dans la représentation de la dernière scène de Michel-Ange, mais c'était un pêcheur. Donc, on peut en conclure que Jean, c'était quelqu'un d'assez, de pas mal robuste et capable de travailler fort. Je fais cette parenthèse-là parce que c'est important de savoir. Des fois, on a l'impression que Jean, c'est pas ça. Pourquoi on a cette impression-là? Parce que dans son tempérament, Jean, c'est un intuitif. C'est quelqu'un qui est sensible, qui est respectueux. Et on le voit dans l'Évangile, c'est de même que Jean nous est présenté. Quelqu'un qui est, je dirais, un peu artiste, si on veut. Ça n'empêche pas un artiste d'être bâti solide. Les artistes, c'est pas tous des gens qui sont juste deux pieds de large, pas deux pieds, mais six pouces de large. C'est ça, Jean. Et on le voit dans l'Évangile, contemporainement. Quand on pense, par exemple, à la dernière scène, pas la dernière scène, mais après la résurrection, quand Marie-Madeleine leur dit que le tombeau est vide, Pierre et Jean partent tous les deux à la course pour aller voir ce qui se passe dans le tombeau. Mais Jean, il est plus jeune un peu, je pense, il court plus vite que Pierre. Alors, arrivé au tombeau, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas tout de suite, lui. Mais en arrivant au tombeau, il le regarde et il attend Pierre. Il veut laisser Pierre entrer le premier parce que Pierre a une préséance sur les autres apôtres, comme Jésus le leur a dit. Et c'est un signe du respect de Jean, sa délicatesse aussi. Il aurait bien pu arriver puis rentrer tout de suite, puis il n'y aurait pas personne qui aurait dit, il n'est pas fait, mais il est arrivé le premier, il rentre tout. Non, non. Il a attendu, il a regardé, il a attendu. Et on voit son intuition, son côté intuitif. Quand il est rentré dans le tombeau, puis il a vu le linge à la tête bien plié, puis les autres linges bien pliés, Jean, à ce moment-là, il a vu et il a cru. Il a compris, lui, à ce moment-là, que Jésus était ressuscité à la vue des signes qui étaient là. Et on revoit une autre chose semblable de Jean après la résurrection, quand Jésus, vous vous souvenez de tout ça, ce que je vous compte, là, quand Jésus était sur le bord de l'acte de Tibériade, puis Pierre, la veille, le soir d'avant, lui a dit, « Moi, je m'en vais à la pêche. » Alors, Jacques, Thomas, Jean, d'autres disciples ont dit, on va à la pêche avec toi. Il était 7-8 dans ce moment-là pour aller à la pêche. Et ils n'ont rien pris de la nuit. Mais le matin, sur le bord de la rive, il y a quelqu'un qui a préparé un petit déjeuner et qui dit, les enfants, avez-vous pris du poisson? Ils ont dit, non, pas bien tout. Il dit, jetez les filets à droite, vous allez en prendre. Pierre dit, on va jeter les filets à droite, on ne pourra rien d'essayer. Mais quand ils jettent les filets à droite, les filets ont de la misère à leur ramasser. Ils étaient tellement pleins de poissons qu'ils avaient peur que la barque se renverse. Et à ce moment-là, Jean, lui, intuitif, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? C'est le Seigneur. Au signe qui lui est donné de cette pêche miraculeuse, Jean reconnaît le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Pierre, à ce moment-là, impétueux, tout de suite, il se met avec Denis et un linge sous le dos, puis il saute à l'eau, puis il s'en va tout de suite rejoindre. Alors, on voit les tempéraments de ces gens, du monde comme nous autres, qui ont chacun leur tempérament. Après ça, on est rendu avec André. Normalement, en raison de mon nom, mon prénom, je devrais avoir un fait pour André. Non, non, moi, je tiens à Pierre. Je l'aime bien, André, d'autant plus que André et Jean, c'était de grands amis, et que André, c'était le frère de Pierre aussi. Et ce qu'il y a de particulier pour eux autres, c'est qu'ils allaient écouter Jean-Baptiste sur le bord du Jourdain. Et il y avait... Jean-Baptiste, ça leur parlait, ça leur disait quelque chose. Et un jour qu'ils écoutaient Jean-Baptiste, en regardant Jésus, en le pointant, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et eux autres, le déclic s'est fait, ils sont partis, ils sont mis à suivre Jésus. Jésus a senti que quelqu'un le suivait, alors s'est retourné. Il leur a pas demandé « Qui cherchez-vous ?» mais il leur a demandé « Que cherchez-vous ?» Et alors, qui cherchait, dans le fond, c'était de voir où il habitait. Alors, ils ont dit « Que cherchez-vous ?» Bon, je cherche à voir où tu demeures. Et Jésus leur a dit « Venez et voyez. » Et ça a été la première rencontre finale, définitive, pour Jean et André. Ils ont passé toute la soirée avec Jésus. Ils ont certainement jasé beaucoup, et Jésus, à ce moment-là, les a appelés comme apôtres. C'est sûr que le lendemain, André et Jean sont allés voir Pierre, puis ont dit « On a trouvé le Messie, c'est Jésus, le charpentier de Nazareth, c'est lui le Messie. » Et Jésus a appelé Pierre à ce moment-là. Ça, c'est la version qui est dans l'Évangile de Jean, qui est différente de la version qu'on a aujourd'hui. Mais quand on met tout ça ensemble, ça fait une belle histoire. Je trouve que c'est intéressant. Alors, voilà pour André. Philippe. Alors, Philippe vient de Bethsaïde, comme les autres aussi. André, Pierre, c'est des gens de Bethsaïde. C'est un village, ça nous dit, moi, je suis jamais allé dans ce coin-là, mais à 3 kilomètres de Capharnaüm. Capharnaüm, c'était une grosse ville. Tous les commerçants, c'est tout là que ça se passait à Capharnaüm. Alors, 3 kilomètres d'un village, une ville, à 3 kilomètres de Capharnaüm, Bethsaïde. Philippe, je le qualifierais comme le titre qui a de l'entre-gens. Philippe, c'est celui qui a de l'entre-gens, qui est avec le monde, qui aime ça être avec le monde. Et ce que je vous dis là, moi, c'est pas des choses que j'invente. Quand on regarde dans l'Évangile de Jean, c'est lui, à un moment donné, qui a parlé de Jésus à Nathanaël. Puis il a dit à Nathanaël, « Jésus de Nazareth, c'est lui le Messie. » Nathanaël a dit, « un instant, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? » Parce que Nazareth, c'est un petit village de rien, puis Nazareth, s'il avait dit, « Il vient de Bethléem », bien là, c'est pas pareil, c'est la ville dont parlaient les prophètes, où il vient de, je ne sais pas quelle autre place, il vient de Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et Jésus, qui s'approchait, alors il dit de Nathanaël, « Voilà un véritable Israélite. Voilà quelqu'un qui est comme des Israélites, qui montre comme ça, qui pose des questions, puis bon. » Et Nathanaël dit, « Minute, comment ça se fait? Tu me connais, tu ne me connais pas? » Et là, Jésus, il va le chercher en plein cœur. Il lui dit, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Être sous le figuier, c'est une expression qui est hébraïque, sémitique, qui veut dire quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui médite, qui prie. C'est une expression, être sous le figuier, c'est ça que ça veut dire. Alors, Nathanaël, ça le surprend un peu. Et dans l'Évangile de Jean, ce qu'il racontait ensuite, c'est qu'il est dit, un jour, vous verrez les anges de Dieu monter dans l'échelle et monter au ciel, descendre. Bon. Et ça faisait référence à l'épisode, au récit où Jacob, le songe de Jacob, d'Israël, le songe de Jacob, où il voyait une échelle qui montait vers les cieux et des anges de Dieu qui montaient, descendaient de ça. Alors, ça, Jésus dit ça, fait référence à ce texte-là. On peut se demander, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre ce que Jésus dit à Nathanaël, puis le texte qui dit? Là, ce que je vous dis, c'est personnel, mais j'aime ça, moi, penser ça de même. Vous en faites ce que vous voulez. C'est que Jésus dit de Nathanaël, un véritable Israélite, quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire quand tu méditais sur la parole de Dieu. Et moi, je pense que Jésus, en lui disant ce texte-là, c'était probablement le texte sur lequel Nathanaël priait, méditait. C'était probablement cette parole du Seigneur sur laquelle Nathanaël méditait. Et alors, quand Jésus lui sort ça, Nathanaël a une réflexion spontanée. Tu es le Messie, tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que ça, si c'est ça qui est arrivé, ça l'a certainement saisi, ça l'a certainement pris au cœur, parce que qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Jésus qui lui dit, quand il était sur le figuier, il ne connaît même pas. Puis là, il cite le texte sur lequel Nathanaël était probablement en train de prier. Nathanaël dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. En tout cas, moi, je vois ça de même, puis ça m'aide à comprendre ça. Bon. Là, je t'ai rendu avec Philippe. Alors, je disais que Philippe, il y a de l'entre-gens. Puis là, j'ai parlé de Nathanaël, parce que c'est Philippe qui a amené Jésus à Nathanaël. On voit aussi Philippe à la veille de la Pâque. Il y a des Grecs qui veulent voir Jésus. Alors, il y a des Grecs la veille de la Pâque, il y a beaucoup de monde à Pâque qui s'en allait, qui s'assemblait à Jérusalem, des gens qui venaient d'un peu partout. Et il y a des Grecs qui vont voir Philippe et dire, parce que Philippe, il y a de l'entre-gens, il a dû commencer à jaser avec eux autres, mais il dit, on voudrait voir Jésus, nous autres aussi. Alors, Philippe part, puis il va voir Jésus pour lui dire, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et ça, tout de suite, ce que ça amène Jésus à faire un enseignement qui est vraiment important. C'est l'enseignement où Jésus leur dit qu'il est venu pour leur faire connaître qui était Dieu, Dieu est un Père, tout ça. Et ça amène Philippe à dire, « Montre-nous le Père et cela va nous suffire. » Et Jésus dit, « Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors on voit que, encore une fois, c'est du monde ordinaire, mais Jésus leur fait faire du chemin. Jésus les amène toujours à aller plus loin. Philippe, il y a de l'entre-genre, il parle avec des Grecs, il dit ça à Jésus, et Jésus, lui, amène tout ce monde-là à aller plus loin. Il ne veut pas commencer à jaser avec les Grecs pour voir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils mangent. Non. Ils veulent me voir, alors ils vont aller, ils les amènent à aller plus loin, à faire du chemin. Barthélemy. Barthélemy, c'est, on dit qu'il est, des fois on peut le nommer comme Nathanaël, mais Barthélemy et Nathanaël, c'est deux différents. Parce que des fois, on pense que Nathanaël, c'est l'autre nom de Barthélemy, mais c'est deux personnes différentes. On ne sait pas grand-chose de Barthélemy, sans doute parce que c'est un type discret qui est avec les autres disciples, puis dans le groupe des disciples, ça en prend des gens comme ça, des gens qui sont là pour rendre service, pour accompagner, pour être là tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est ça, Barthélemy, quelqu'un qui est disponible pour rendre service. Comme il n'y a pas grand-chose d'écrit de lui sur lui, juste qui a été choisi comme apôtre, j'en déduis que ça devait être un type comme ça, tout simplement. Un bon bonhomme, comme il y en a parmi nous autres qui sont des bons bonhommes. Matthieu. Matthieu, c'est le publicain. Ça, c'est pas drôle, un publicain dans le temps de Jésus, parce que c'était ceux qui collectaient les impôts, ceux qui ramassaient les impôts. Et s'ils travaillaient pour les Romains à ce moment-là, ça veut dire qu'un publicain était comme excommunié de la synagogue. Et les bons juifs pratiquants ne devaient pas parler avec un publicain. Parce que c'était quelqu'un qui était considéré comme impur, quelqu'un qui, tu sais, ça paraît pas bien d'aller manger chez un publicain, là, parce que c'est comme quelqu'un qui va manger chez un type de la mafia, ça pose des questions un peu. C'est un peu le même genre, c'est un exemple, c'est un peu le même genre. On se tient loin des publicains quand on est quelqu'un, un bon juif. Et Jésus l'appelle à marcher avec lui. Il laisse tout cela, puis il se met à marcher avec Jésus, à marcher à la suite de Jésus. Alors, Matthieu, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui travaille pour les Romains, mais que Jésus choisit. On voit que c'était son travail, mais Jésus, non, il a pris les gens comme ils sont, là où ils sont, parce qu'il savait jusqu'où il pouvait les conduire, jusqu'où il pouvait les amener. En parenthèse, c'est aussi le nom qu'on donne à Matthieu, c'est Lévi, dans l'évangile de Luc, c'est le même qui l'est appelé en Matthieu aussi, je pense. Thomas, on entend plus parler, lui, vers la fin de l'évangile, parce que Thomas, c'est le genre de bonhomme qui pose des questions et qui veut comprendre. on ne peut pas l'emplir, tout le monde, il ne se pas emplir. S'il ne comprend pas, ça ne marche pas, il faut qu'il comprenne. Et vous avez en tête l'épisode de l'Évangile où c'est ça, Thomas. Alors, Thomas, c'est quelqu'un qui veut savoir. Et plus précisément, à la résurrection, quand Jésus apparaît aux apôtres, Thomas n'est pas là. Alors, la main lui dit, on a vu le Seigneur hier, il est ressuscité, il est vivant. Thomas a dit, mais là, moi, là, si je ne le vois pas, je mets pas j'enfonce pas mon doigt dans les trous des clous des mains, puis si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Lui, ça y prend des preuves. Thomas, c'est un gars comme ça. Il faut qu'il sache. Une fois qu'il sait, ça va. Et le soir même, Jésus apparaît, et là, ben, il voit Thomas. Alors, il dit à Thomas, avant que Thomas dise quoi que ce soit, avance, mets ton doigt dans mes mains, mets ta main dans le côté. Et Thomas, à ce moment-là, devant l'évidence, tombe aux genoux du Seigneur et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». La phrase qu'on reprend, en tout cas dans mon temps, c'était ça, à l'élévation, on dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas, à partir de ce moment-là, pour lui, sa foi a été indéfectible. Et on le voit, Thomas, à notre place, un peu comme quelqu'un qui est là tout simplement. Quand Pierre, à la fin, subordonné, dit « Mon, on s'en va à la pêche », alors c'est écrit que Thomas est allé dans la chaloupe avec eux autres, dans le bateau, pour aller à la pêche aussi. Il y a un autre Jacques, le fils d'Alphée. Alors, il y a peut-être un lien avec Matthieu, parce que Matthieu, il est décrit comme aussi le fils d'Alphée. Mais il n'y a rien de sûr là-dedans, c'est juste, c'est-il le même Alphée, on ne sait pas. Alors, il n'y a rien de précisé concernant le lien possible entre Jacques et Matthieu. Même chose, Jacques, le fils d'Alphée, quelqu'un de distrait, un peu comme Barthélemy, sans doute. Thaddée, c'est la même chose, c'est aussi fils d'Alphée, tout comme Jacques. Alors, on ne sait pas grand-chose de lui, Thaddée. Et c'est un titre comme ça. Il y en a quelques-uns dans les apôtres qui ont été là, que Jésus a appelés, qui ont eu un rôle plus discret et qui, finalement, ont eu un rôle très important quand ils ont été envoyés en mission, quand ils sont allés dans les sorties de Jérusalem pour aller annoncer l'Évangile un peu partout. Mais là, c'est sûr que ces apôtres-là ont été dans des pays, dans des endroits comme les autres, pour annoncer la parole de Dieu. Et ils ont été considérés comme Jésus, comme des personnes importantes, même si elles n'avaient peut-être pas le panache de Pierre, ou l'éclat, l'intuition de Jean, ou quelque chose pour André, je ne sais pas quoi. Ils s'en prenaient aussi, Jésus s'est entouré de tout ce monde-là. Alors, c'est ça d'abord, le groupe que Jésus s'est choisi. Et on va le voir plus tard, c'est eux autres qui l'envoient pour aller annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Et il leur a dit en quelque sorte, « Allez, je vous envoie partout dans le monde porter la bonne nouvelle. » On va maintenant le chanter.
Thank you.
je viens de vous dire, veuillez vous asseoir, c'est un tic professionnel. Alors, on va revenir maintenant au texte de l'Évangile où Jésus a choisi ses apôtres et il les a choisis pourquoi? C'est éclairant aussi de savoir pourquoi Jésus a choisi. Il les a choisis pour être avec lui. Jésus ne voulait pas être seul. Il ne voulait pas être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un grand prophète, le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance, dit Jésus. Jean-Baptiste, il avait des disciples, mais il était tout seul sur le bord du Jourdain et il prêchait, il était tout seul. Jésus, il ne voulait pas être tout seul. Alors, il en choisit 12 pour être avec lui. Ça veut dire quoi, être avec lui? Dans les Évangiles, souvent, des choses sont rapportées une ligne, deux lignes, puis 10 lignes, puis c'est tout. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Et aujourd'hui, cette petite phrase-là de quelques mots, on risque de la passer comme ça. Jésus en choisit 12 pour être avec lui. Puis on continue. Mais c'est important de s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire être avec lui? Il est choisi pour être avec lui, et on va s'arrêter pour voir c'est quoi que ça veut dire être avec quelqu'un. Moi, ce matin, je suis venu ici en autobus, et en autobus, je n'étais pas avec du monde. On était plusieurs à attendre l'autobus. Je n'étais pas avec du monde. J'étais à côté des personnes qui étaient là. C'est différent être avec quelqu'un puis être à côté. Ça paraît peut-être une nuance, mais c'est quelque chose qui est vrai. Les gens qu'on rencontre à l'arrêt d'autobus, là, on est à côté d'eux autres. Mais quand on est avec quelqu'un, là, ça implique d'autres choses. Être avec quelqu'un, là, ça veut dire qu'on partage, il y a des liens. Il y a quelque chose qui se crée, on jase, on se connaît de mieux en mieux. On devient des compagnons, on devient des amis. Et c'est ce que Jésus a voulu. Il a voulu choisir les 12 pour qu'ils soient avec lui, pour qu'ils soient ses compagnons de route, avec qui il pouvait jaser, il pouvait partager, il pouvait vivre sa vie de tous les jours en leur apprenant des choses, en leur faisant cheminer aussi. Dans les Évangiles, c'est pas gros les Évangiles, là, mais quand on lit que Jésus a choisi 12 pour être avec lui, pour vivre avec lui, pour être ses compagnons de route, là, ça nous permet de rêver un peu, de voir un peu comment ça se passait. Et on en a dans l'Évangile un ou deux épisodes de ça pour voir comment ça se passait. Parce que c'est du monde ordinaire, alors ça se passait comme du monde ordinaire. Vous vous rappelez probablement l'épisode de Jacques et Jean, qui à un moment donné, au fur et à mesure qu'ils découvrent qui est Jésus, le Messie. Alors, et Jésus leur dit qu'il vient établir son royaume, même il parle de royaume de Dieu, mais eux autres, ils ne sont pas encore rendus à comprendre tout ça. Alors, ils vont voir Jésus et on dit, on a quelque chose à te demander. Jésus dit, parlez. Et on dit, on aimerait ça, nous autres, quand ton royaume va venir, être un à ta droite, l'autre à ta gauche. On est les deux frères, alors ça ramène du bon sens, les deux frères, être un. Puis même, dans un autre évangile, c'est encore mieux que ça, c'est que c'est la maman de Jean et Jacques qui vont intercéder auprès de Jésus, la femme de Zébédée. Alors, elle va voir Jésus pour intercéder pour ses deux fils, parce qu'elle dit juste qu'ils ont dû, eux autres, Jacques et Jean, parler avec leurs parents, puis leur dire ça, c'est vraiment le Messie, puis il vient établir son royaume. Alors, pas folle la mère, elle dit, on va essayer de vous trouver une place, mes amis et garçons. Alors, on peut être à droite, être à gauche. Juste cet épisode-là, ça nous montre que Jacques et Jean, c'est vraiment du monde comme les autres. C'est vraiment du monde qui ont des réflexions, des ambitions, qui essaient de se placer, du monde comme nous autres. Et cet épisode-là nous le montre. Et encore une fois, on voit Jésus, il choque pas, il dit, « Mais c'est quoi vous voulez faire là? Ça porte vos affaires, ça va, puis c'est quoi cette affaire-là? Vous êtes tombé ambitieux? » Non, non. Il les amène à aller plus loin en leur disant, regardez, là, j'aimerais bien sûr que vous soyez à ma droite ou à ma gauche, finalement. Mais ces places-là ont été réservées pour d'autres par le Père. Et c'est le Père qui va placer à ma droite et à ma gauche dans le royaume ceux qu'il a décidé. Il ne les brime pas, mais il les amène à aller plus loin, à comprendre quelque chose et à saisir que oui, les places à sa droite, à sa gauche, c'est pas comme si moi, Jacques, puis moi, Jean, on est tous les deux à côté de lui dans le royaume. C'est quelque chose de différent. Il va leur faire faire du chemin, bien sûr, davantage, mais déjà, il les amène à cliquer, à saisir que le royaume, c'est pas tout à fait comme ils le pensaient, eux autres. Et c'est ça que Jésus a fait, être avec lui, être ses compagnons, c'est des événements comme ça. En autre place, dans l'Évangile, il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus, puis il dit, je suis prêt à aller avec toi, mais Jésus dit, viens, suis-moi. Mais il dit, oui, c'est bien ça, mais il dit, tu veux me suivre, abandonne tout, laisse tout, parce que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. C'est-à-dire que Jésus, il n'avait pas de domicile fixe. Jésus, il couchait en plein air, ou il couchait chez des gens. À un moment donné, il a resté un bon bout de temps à Capharnaüm, chez Pierre. On voit ça dans l'Évangile. Jésus était dans la maison de Pierre quand par exemple, ils ont amené le paralysé, puis l'on descend pour être guéri. Bien, Jésus était dans la maison de Pierre, c'est-à-dire qu'il était probablement à Capharnaüm, dans la maison de Pierre. Mais par après, Jésus n'avait pas d'endroit. Alors, les disciples qui suivaient Jésus, ils ont vécu comme Jésus. Ils ont suivi Jésus. Et on va le voir plus loin aussi, un autre épisode, où on voit, dans un épisode plus important, dans quelques minutes, que les disciples étaient avec Jésus, que Jésus venait avec lui. C'est pour ça qu'il les a choisis, finalement, pour être ses compagnons, pour partager avec eux autres, pour que dans ce contact qui n'a pas duré longtemps, ils puissent les amener à devenir des apôtres, des gens capables d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus les a envoyés prêcher. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans l'Évangile qui est là, Jésus les envoie prêcher, il les envoie, comment c'est dit exactement, dans les blés d'os pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Alors, pour les envoyer prêcher, c'est que, en étant avec lui, les apôtres ont compris, ont appris, c'était quoi le royaume de Dieu. De sorte que quand ils ont les envoyés prêcher, ils savaient quoi dire, ils savaient comment se comporter, ils avaient vu Jésus agir, ils avaient vu Jésus s'approcher des lépreux, puis toucher, puis guérir. Ils avaient vu Jésus avoir pitié d'un aveugle. Il avait vu Jésus guérir la belle-mère de Simon. Il avait entendu Jésus parler aux gens, être capable de compassion. Il avait vu Jésus. Alors, quand Jésus les envoie prêcher, il ne part pas dans le vide demain et dit, oui, mais c'est quoi qu'on va dire? Non, il savait quoi dire, il savait comment se présenter, il savait les attitudes, les comportements à avoir. Et l'Évangile d'aujourd'hui, le dimanche, nous dit un peu ce que c'est que ça peut avoir l'air. Les apôtres, Jésus, à un moment donné, s'en va à la synagogue de Nazareth. Et là, à la synagogue de Nazareth, il ouvre le livre d'Isaïe et il lit le texte qui lui est présenté. Et ce texte-là qui est présenté, ça va nous amener à comprendre l'autre partie de l'Évangile d'aujourd'hui qui est importante. Jésus les envoie prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Je pense que ça va à peine de regarder ça d'un peu plus près. Qu'il les envoie prêcher, qu'il les choisisse pour compagnons, ça va, c'est bien. Mais là, les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons, là, il y a quelque chose qui accroche au de chasser les démons. C'est quoi chasser les démons? Et je pense que c'est important de s'arrêter pour voir c'est quoi. Parce que Jésus les envoya prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Et aujourd'hui, des gens qui sont envoyés prêcher, que ce soit vous qui avez la mission de baptiser, comme moi, ou d'autres qui ont la mission d'annoncer la parole comme je l'ai, pouvoir de chasser les démons, on ne cherche pas les démons, nous autres, on n'a pas ce pouvoir-là. Et pourtant, on l'a. Mais il s'agit de voir de quelle façon. Je prendrai quelques minutes pour juste situer des choses à partir d'un texte que Pierre-René Côté, un enseignement qu'il a donné à la retraite de Foi et Partage en 2010, puis un enseignement que donne la Saint-Roch, où il distingue trois types qu'on appelle le mauvais, Satan, le diable, puis le démon. Satan, on l'a vu avec Saint-Pierre, Jésus, qui dit à Pierre, passe en arrière. Satan, c'est l'adversaire, celui qui met des bâtons derrière vous, celui qui empêche d'avancer. Et Satan, il est présent comment dans nos vies? Mais c'est quand, un moment donné, en dedans de nous autres, là, on a des doutes, on se dit, ah, je serai jamais capable de faire ça, puis non, je suis pas capable, puis j'y arriverai jamais. Puis, non. On aurait le goût, on aimerait ça faire quelque chose, on dit, j'aimerais donc ça faire ça. Et, oh non, tu seras jamais capable, puis tu n'arriveras pas. Ben, c'est ça, le Satan, c'est l'adversaire de nos projets, c'est cette espèce d'esprit en nous autres. Puis là, quand je dis esprit, je devrais dire, cette espèce d'indécision qu'on a, de doute qu'on a de nous-mêmes, parfois, au lieu d'avancer avec confiance, faire confiance à la vie, faire confiance à Dieu, on fait pas confiance, on met des breaks, ça ressemble à ça, Satan. Satan, c'est l'adversaire de nos projets qui nous empêche de faire, d'aller où ce qu'on voudrait. Le diable, c'est celui qui m'achicane. C'est celui qui divise, c'est celui qui sépare. Alors, l'exemple, vous savez, vous connaissez l'expression, quand on dit de quelqu'un, lui, elle, partout où il passe, il met le diable. Ça veut dire quoi? Il m'achicane, il met la séparation, il amène les gens, c'est de la zizanie, il monte les gens, il met le diable. Le diable, c'est ça. Le diable, c'est celui qui, quand on rencontre des gens, que nous autres mêmes, on met la chicane, on le met, ça, c'est ça le diable, c'est comme ça. Et à ce moment-là, la façon de le voir, c'est pas nécessairement quelqu'un qui, c'est pas un esprit là, qui est à côté de nous autres, mais c'est des comportements, des attitudes qui sont des nôtres et qui parfois font en sorte que, de temps en temps, on est les adversaires des projets des autres. On dirait en hébreu, on est des satans. De d'autres fois, on est comme des gens qui mettent la chicane, la zizanie. On est un peu comme diabolus, des diables. Puis, d'autres fois, on est comme des démons. Le diable, on dit, ça divise. Pour comprendre, on prend une expression, quelque chose qui est diabolique, quelque chose qui est symbolique. Quelque chose qui est diabolique, ça met la chicane, ça divise. C'est un plan diabolique, là. Comme Trump en a des plans diaboliques. Et symbolique, ça rassemble le symbole. Pensons, symbole des apôtres, ça unifie la foi des apôtres. Symbole, symbolique, diabolique. Le démon, c'est une force en style, quelque chose qui est en nous autres, le démon, qui fait, on aime pas ça, on voudrait s'en débarrasser, on désire pas vivre ça, mais on est comme pogné avec. Moi, quand je confesse des fois, il y a des gens qui disent, c'est toujours la même chose, puis toujours pris avec ça. Mais c'est ça le démon. C'est des choses avec lesquelles on est pris, qu'on ne réussit pas à se débarrasser. Et c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous autres. Autant le diable, c'est à l'extérieur, le Satan, ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur, mais le démon, c'est comme nos démons intérieurs. C'est comme quelque chose qui se passe en dedans de nous autres. C'est souvent des petites choses, quelqu'un qui veut arrêter de sacrer, c'est pas beau sacrer, mais c'est moins pire, mettons, que quelqu'un qui veut se débarrasser d'une mauvaise habitude de drogue ou de boisson. C'est aussi deux sortes de démons. C'est des choses qu'on a à l'intérieur dont on voudrait se débarrasser pour vivre mieux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon. Alors, quand Jésus leur dit le pouvoir de chasser les démons, bien, c'est en fait amener les gens à se libérer de leur peur, de leurs craintes, s'ils ont des projets, se libérer de Satan, se libérer des craintes, puis que Jésus leur dit toujours, « Va en paix, désormais ne pêche plus. » Il les envoie, continue, aime. Il les libère de ce qui est des blocages qui les empêchent de réaliser leurs projets, leur vie d'amour. Et c'est ça que le pouvoir de chasser les démons, c'est de cette façon-là. Pardon. Tu pourras le prendre sur Internet, je te dirai ça tantôt. Salut. Bon. Alors, c'est ça le démon, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous autres. Et quand Jésus leur dit le pouvoir de chasser les démons, c'est là que je reviens au texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus se retrouve à un moment donné à la synagogue de Nazareth. Et on lui présente le livre pour qu'il lise, parce que c'est un peu comme tu as fait tout à l'heure, j'ai fait. J'ai demandé à Fernande, veux-tu lire l'Évangile? Alors, Jésus à la synagogue, il y a des gens, les rabbins, où disent, le chef de la synagogue, oh mon Dieu, Jésus, tu es de Nazareth, tu habites ici, alors veux-tu lire l'Évangile, le texte de la parole? Et on lui passe le rouleau du livre, et il lit le texte d'Isaïe que je vais vous lire. Avant de vous lire ça, il faut savoir que les apôtres étaient avec lui à ce moment-là à Nazareth. Jésus n'était pas tout seul. Les apôtres, c'est ses compagnons de vie. Donc, ils étaient certainement avec lui, et ils ont été témoins de cet épisode-là. Qu'est-ce que Jésus? Il ouvre le livre, et voici ce sur quoi il tombe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referme le livre, il le remet au servant, puis là les gens y attendent son homélie, et l'homélie est résumée comme ceci. « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Les apôtres sont témoins de ça. Et quand Jésus les envoie avec pouvoir de chasser les démons, c'est ça, chasser les démons. Chasser les démons, c'est porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est être capable d'annoncer aux captifs leur libération. Ceux qui sont captifs de leurs mauvaises habitudes, ceux qui sont captifs de leur peur, de leur crainte, qui ne font pas confiance à la vie. Ceux qui sont aveugles, qui s'aveuglent eux-mêmes, qui ne veulent pas voir ce qu'il y a de bon chez les autres, qui trouvent toujours ce qu'il y a de mauvais, le mauvais côté. Jésus, il dit, « Je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre et les apôtres qui l'envoient prêcher avec pouvoir de chasser les démons, c'est ça que ça veut dire, chasser les démons. C'est amener des gens qui s'aveuglent à retrouver la vue et à voir clair dans leur vie, dans leur entourage, à faire confiance à la vie, à se débarrasser de leurs démons intérieurs. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus vient nous annoncer. Nous redonner le goût d'aimer, nous faire comprendre qu'il est venu pour nous rendre des hommes et des femmes libres, capables de choisir, capables de vivre heureux. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est ça en fait. Le royaume de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand Jésus les envoie avec mission de chasser les démons, il ne faut pas penser que là, les apôtres vont être avec des gens pour faire des grands parages puis des formules spécifiques. Non, ce n'est pas des exorcismes que Jésus les envoie faire, mais il leur envoie annoncer la bonne nouvelle comme il l'a proclamé dans la synagogue de Nazareth. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Les apôtres, avec le pouvoir, Jésus leur a donné le pouvoir de faire ce que lui a fait. Quand des gens étaient malades, Jésus les guérissait. Quand des gens étaient aveugles, Jésus leur redonnait la vue. Quand Jésus a rencontré des lépreux, il leur a touchés, il leur a donné la santé. Et c'est ça que les apôtres ont fait quand ils sont allés prêcher. On retrouve ça dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Quand les apôtres reviennent de mission, ils sont tout emballés, ils sont tout pépés, ils ont dit à Jésus, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Et là, ils sont enthousiastes, ils comptent tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Jésus faisait, parce qu'il leur a donné le pouvoir de le faire. Alors, quand ils sont allés annoncer la bonne nouvelle, puis qu'ils rencontraient des personnes malades et qu'ils les guérissaient, ça marchait. Quand ils rencontraient des aveugles, puis ils guérissaient les aveugles, ça marchait. Puis quand il y avait des lépreux, ils étaient capables de leur toucher sans crainte, ils se sentaient libres de le faire, et ça guérissait, ça marchait. Ce pouvoir-là, Jésus leur a donné, ils l'ont mis en pratique, et là, à ce moment-là, ça a eu comme effet de consolider leur foi, de comprendre c'était quoi leur mission, de comprendre c'était quoi la bonne nouvelle qu'ils avaient à annoncer. Comment se fait-il que aujourd'hui et par après, ça ne s'est pas passé de même? Les gens qui annoncent la bonne nouvelle, nous autres qui sommes envoyés en mission par Jésus, on ne peut plus faire de choses semblables. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le royaume. Le royaume, c'est pas d'attendre qu'il se passe des choses extraordinaires, qu'ils sortent de l'ordinaire. Quand Jésus l'a fait avec les apôtres, c'était pour les éduquer et pour leur donner un cours rapide de prédication 101 et leur montrer que annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, même s'il n'y avait pas de guérison de malades physiques, c'était une bonne nouvelle pour les gens et que ça apportait des guérisons, ça amenait les gens à être meilleurs, ça amenait les gens à être plus heureux, ça amenait les gens à voir clair dans leur vie. C'est ça qu'ils voulaient leur faire comprendre. Mais une fois qu'ils ont compris ça, eux autres, bien là, par après, ils savaient que simplement annoncer la bonne nouvelle, même s'il n'y avait pas le pouvoir de guérir physiquement, de lever le monde debout, mais ils savaient que la bonne nouvelle, c'était efficace, c'était ce dont les gens avaient besoin, et c'était ça le royaume de Dieu, un royaume où les pauvres sont bienheureux, un royaume où les gens qui pleurent sont heureux, un royaume où les gens qui veulent faire la paix sont appelés des artisans de paix, un royaume où les gens qui sont doux sont considérés comme des gens heureux. Ils ont compris ça, qu'en fait, le royaume de Dieu, c'était les béatitudes. Et dans cet extrait-là de l'Évangile, qui n'est pas tellement long, on comprend toute la beauté, la grandeur de la mission que Jésus leur a confiée. Mais pour nous aujourd'hui, ça nous aide à comprendre la beauté, la grandeur de la mission que Jésus nous confie. Parce que Jésus, nous autres aussi, il nous appelle à être dans notre milieu porteurs de cette bonne nouvelle, là où nous sommes, comme nous sommes, et de manière aussi simple que de vivre avec le pain quotidien dont on parlait dans le refrain de couplet tantôt, là où nous sommes, être tout simplement témoin par notre manière d'être, par notre manière d'agir, d'accueillir les autres, notre sourire, c'est de cette façon-là qu'on est aujourd'hui, nous tous et nous toutes, bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je termine tout simplement parce que, en vous lisant un texte de Laurette Lepage, parce que dans ce texte-là, on va voir qu'on a quelque chose qui nous aide à y arriver. Et ce quelque chose qui nous aide à y arriver, c'est quelqu'un. Je vous lis donc, pour terminer, ce beau texte de Laurette Lepage. Et déjà, le titre nous indique où est-ce qu'on s'en va. Vous allez recevoir une force, c'est le titre. Je regarde les rades de ma fenêtre, si dépouillées durant cette saison de froide dormance. Mais voilà que le printemps fera éclater les bourgeons d'une vie nouvelle. Quelles forces peuvent susciter le soleil et la chaleur de la nature? Quand je regarde l'arbre de notre monde en détresse, je pense à tes paroles, Seigneur. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tu veux des témoins capables de parler de toi qui nous habite. Des témoins capables de faire rayonner ton esprit, des témoins capables d'accomplir tes œuvres. Et les preuves de l'authenticité de ton esprit viennent de la vie ordinaire, des attitudes du cœur, de ces miracles quotidiens de partage, de paix, de pardon et de joie. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser conduire par ton esprit qui éclaire tes paroles. Par lui, donne-nous de porter à notre monde d'aujourd'hui les bons fruits dont parle saint Paul. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité et la maîtrise de soi. Viens, Esprit de Dieu, viens.